Congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Putain de merde.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien dans l'émission Cannabis Circus sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, bien entendu. Et donc ce soir, un nouveau numéro de Cannabis Circus. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir ? Eh bien, de pas mal de choses qui concernent le chanvre, bien sûr, comme tous les lundis. On va parler un petit peu d'Amsterdam. C'est pas une très très bonne nouvelle, vous allez voir. Si vous avez l'intention d'aller faire du tourisme et de fumer quelques pétards dans la rue, ben ça va être compliqué. On va voir pourquoi. On va également bien sûr s'intéresser à ce qui se passe en France, où il y a un peu, je dirais, une offensive anti-prohibitionniste en ce moment, avec une tribune qui a été co-signée par le Cirque notamment, où des élus et des associations appellent à expérimenter un modèle local de légalisation du cannabis. C'est une tribune qui est parue hier dans l'événement du jeudi, dans le journal du dimanche, pardon, le journal du dimanche. On va également s'intéresser à un projet de loi de légalisation qui a été déposé le 30 mai dernier par Gilbert Luc Devina, qui est un Lyonnais, d'ailleurs. Alors, attendez, je vais couper d'ailleurs, d'abord, ce qui me tourne dans les oreilles. Voilà, excusez-moi. Vous êtes bien en direct. Gilbert Luc Devina, qui a déposé avec plusieurs collègues un projet de loi de légalisation. De la consommation, d'encadrement de la production et de la vente. On verra un petit peu tout ça. Ensuite, on va s'intéresser un peu à l'amende forfaitaire délictuelle avec le défenseur des droits qui réclame l'abolition des amendes forfaitaires délictuelles. On va voir, c'est hyper intéressant. On va voir qu'en fait, c'est pas très surprenant. Hein, je pense que certains le savent peut-être, mais l'amende forfaitaire délictuelle ne concerne pas que des délits commis pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Mais il y a d'autres délits également qui peuvent être amendables. Et on va voir qu'il y a quand même des dérapages, quoi, des choses quand même pas très normales qui se passent. Et du coup, la défenseur des droits, on va même, pourquoi pas plutôt dire la défenseuse des droits, qui s'appelle Claire Hédon, demande l'abolition de l'amende forfaitaire délictuelle. On va voir ça. Un petit article des éclaireurs Canal Plus qui s'intéresse à la légalisation. Est-ce que c'est un bon plan pour stopper les règlements de compte? Un petit article, pas extraordinaire, mais bon. Un article au sujet de la consommation et la conduite automobile. Une étude qui a été financée par l'État de Californie. On va voir ça aussi. C'est assez intéressant. Un article paru dans Cannabis Therapeutica en italien, mais traduit en français bien sûr. Qui a peur du cannabis médical, avec des propos de David Nutt, qui est le président de Drug Science et qui est un neuropsychopharmacologue qui a travaillé pour la couronne britannique jusqu'à la fin des années 2000 avant de claquer la porte. On en avait parlé à l'antenne, alors c'est quand même assez vieux, mais on va voir ça. On parlera rapidement. Ah oui, on va parler de Georges Appap, qui était procureur à Valence, qui nous a quittés il y a 10 ans, et on va lui rendre un petit hommage ce soir en lisant son discours de rentrée judiciaire du 8 janvier 87, où il disait des choses très intéressantes. Et on va pas en parler de manière exhaustive, mais je voulais vous parler d'un livre qu'on peut trouver sur Kern.info, l'action publique française en matière d'usage de cannabis, les fondements historiques d'un échec. Je vous lirai le début, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver tout l'article sur la page Facebook du Cirque Lyon. Et enfin, pour terminer, on parlera un peu de la République tchèque qui voudrait ou qui pourrait saisir la Cour européenne de justice pour ses projets de légalisation du cannabis. Et s'il nous reste un peu le temps, on reviendra sur la Thaïlande où le cannabis qui a été légalisé pourrait redevenir illégal. Et on va voir pourquoi. J'espère qu'on aura le temps. Voilà. Voilà un petit peu pour le sommaire de l'émission de ce soir. Donc, nous allons commencer, bien sûr, par le début. On va parler un petit peu d'Amsterdam. On en avait déjà parlé un peu à cette antenne d'Amsterdam, et notamment de sa nouvelle maire, sa nouvelle mairesse, Femke Halsema, qui, déjà avant qu'elle soit élue, avait promis de réglementer un peu plus sévèrement le quartier rouge. Elle avait parlé à l'époque d'interdire la consommation du cannabis ou même de réduire le nombre de coffee shops, etc. Donc bon, tout ne s'est pas passé exactement comme elle l'avait prédit, heureusement ou pas. En tout cas, elle est maintenant maire de la ville et elle a décidé d'interdire la consommation d'herbes en public, dans la rue en fait. Des panneaux ont même été installés dans le quartier d'Avalen, qui est bordé de canaux, qui est connu pour ses maisons closes et ses coffee shops, qui est également un quartier extrêmement touristique qui attire chaque année des millions de touristes. Mais donc voilà, ça fait bien sûr un peu le côté pittoresque de ce coin de la ville d'Amsterdam, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des riverains, des gens qui habitent dans ce quartier et qui malheureusement vivent les nuisances du tourisme quotidiennement. Donc, la maire de Amsterdam a souhaité faire un peu la part des choses et faire en sorte que les habitants de la ville, de la vieille ville, souffrent un peu moins du tourisme de masse et de l'abus d'alcool et de drogue dans les rues. C'est comme ça que c'est présenté. Les touristes attirent également, je cite, les touristes attirent également les trafiquants de rue qui, à leur tour, sont à l'origine de la criminalité, de l'insécurité. L'atmosphère peut devenir sinistre, surtout la nuit. Les personnes sous l'emprise de l'alcool traînent longtemps dans les rues. Les habitants ne dorment pas bien. Et le quartier devient dangereux et invivable. Voilà ce qu'avait déclaré le conseil municipal dans son ensemble dans un communiqué. Et l'interdiction de fumer dans la rue devrait réduire les nuisances. Nous envisageons également une interdiction d'achat de drogue douce à certaines heures. Si les nuisances ne diminuent pas suffisamment, nous étudierons la possibilité de fumer sur les terrasses des cafés. Dans cette description, on nous explique quand même que les personnes sous l'emprise de l'alcool traînent longtemps dans les rues et on interdit aux gens de fumer du cannabis. Et on ne parle pas d'interdire les états d'ébriété alcoolique. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais voilà, c'est bon. Je pense pas que ça donne grand-chose, en fait, parce que si on pointe effectivement des problèmes de consommation de drogue au pluriel, mais qu'on ne tape que sur les fumeurs de cannabis, enfin d'herbe, à mon avis, ça va pas être très très efficace. Il se trouve quand même que malheureusement, ou peut-être heureusement pour les riverains, en tout cas, je sais pas, le conseil municipal a donné son accord final à la proposition du début de mois. Et pour l'instant, les gens sont toujours autorisés à fumer à l'intérieur et sur les terrasses des coffee shops qui vendent du cannabis et du hashish dans le quartier, ainsi que dans d'autres parties de la ville. Mais l'interdiction de fumer du cannabis fait partie d'un effort mené donc par la maire, première femme, pour améliorer les conditions de vie dans le Red Light District. On verra bien. En tout cas, vous partez à Amsterdam bientôt, faites attention. Si vous fumez de l'herbe dans la rue, vous risquez d'être verbalisé par une amende de 100 euros. Voilà. Donc, bon, peut-être que ça peut s'éviter quand même. Voilà pour Amsterdam. On va vite maintenant s'intéresser à la tribune de l'événement du journal du dimanche, décidément. Je ne sais pas pourquoi je vous parlais de l'événement du jeudi. Mais donc du journal du dimanche, une tribune qui est parue hier. Des élus de tous bords politiques, dont Yannick Jadot, Gaspard Koenig et Gilles Averousse, et des associations, dont le Cirque, signent une tribune avec des élus et des représentants d'associations pour demander le droit d'expérimenter localement un modèle de légalisation encadrée de production, vente et consommation de cannabis. Alors, avant de vous lire l'article, la tribune, je tiens à vous dire immédiatement qu'il y a quand même pas mal de passages dans cette tribune que, à titre personnel et en tant que membre du Cirque, moi j'aurais refusé de co-signer. Malheureusement, on n'est pas forcément... le rapport de force ne nous est pas favorable, et donc on va pas faire la fine bouche. Mais il y a quand même des choses quand même assez... que je ne suis pas d'accord avec. Et voilà, encore une fois, je vous le dis, je l'aurais pas signé. Mais bon... Bref, je continue. Notre pays est le plus gros consommateur de cannabis en Europe, avec près d'un million de fumeurs quotidiens de plus en plus jeunes. Alors voilà, déjà, premier désaccord, de plus en plus jeunes. J'entends ça depuis 25 ans. Ça veut dire quoi? Que les fumeurs de cannabis, aujourd'hui, il y en a, ils ont 3 ans et demi, ils commencent à rouler des pétards et dans leur berceau ou dans leur Yupala. Non, ça n'a aucun sens. Cette phrase-là, elle est mauvaise. Et en plus, elle n'explique pas que pourquoi il y a des personnes très jeunes qui sont impliquées là-dedans, et c'est tout simplement dû à un système prohibitionniste qui attire des personnes issues de milieux défavorisés socialement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens jeunes qui se retrouvent impliqués dans ces trafics. Ça serait beaucoup plus efficace d'expliquer ça en une phrase plutôt que dire que ça attire des consommateurs de plus en plus jeunes ou des trafiquants de plus en plus jeunes. Donc voilà, premier désaccord. Face à ce constat, la législation encadrée de la production, de la vente et de la consommation de cannabis apparaît désormais comme la seule option pertinente, objective et rationnelle pour la France. Nous invoquons le droit d'expérimenter localement un modèle de légalisation encadrée de production, vente et consommation de cannabis. Cette expérimentation, nous l'envisageons collective, participative, en lien avec les territoires et encadrée par l'État. Nous voulons construire cette expérimentation en partenariat, notamment avec les acteurs du médico-social, de la prévention santé, des filières locales de maraîchage et de transformation agricole, et sur un panel diversifié de consommateurs volontaires majeurs. Cette volonté exprimée du droit à l'expérimentation locale fait suite à la publication de deux rapports officiels très récents appelant à la légalisation encadrée de la consommation de cannabis. Ces rapports ont été publiés par l'Assemblée nationale le 5 mai 2021 et par le Conseil économique, social et environnemental le 24 janvier 2023. Pourquoi s'entêter dans un modèle français ultra répressif de prohibition qui ne fonctionne pas? De nombreux pays dans le monde ouvrent et encadrent la production et la consommation de cannabis. Ces expériences donne à voir des réalités de mise en œuvre très différentes. Pourquoi toujours s'entêter pour des raisons de posture politique dans un modèle français ultra répressif de prohibition qui ne fonctionne pas? Au contraire, construisons le modèle français de légalisation encadrée du cannabis. L'engorgement des prisons et des tribunaux, les économies parallèles responsables de troubles et d'insécurité dans le quartier, une jeunesse mise en danger faute d'accompagnement adapté, voilà les résultats de la politique répressive française. Nous en sommes persuadés, il est grand temps de mener une politique volontariste et courageuse de légalisation encadrée. Par ce dispositif, nous entendons permettre une réduction de la consommation de cannabis et une réduction de la criminalité. Aussi, nous affirmons que ce dispositif doit être fortement accompagné par un engagement en faveur de la santé publique et une meilleure prévention des conduites addictives. La réalité française, ce sont en effet des quartiers entiers qui croulent sous le trafic et des tribunaux engorgés. La réalité française, ce sont encore des produits qui ont évolué et mettent en danger des consommateurs avec des taux de THC désormais bien trop élevés. Je ne suis pas non plus complètement d'accord, voire pas du tout avec cette assertion. Je continue. La réalité française, ce sont enfin des consommateurs contraints de consommer en toute illégalité, alors même que dans les pays qui ont opté pour la légalisation encadrée du cannabis, une grande partie des fumeurs préfèrent se fournir dans des lieux légaux, proposant des substances contenant des taux de THC plus raisonnables et une traçabilité des produits consommés. Et là non plus, je ne suis pas d'accord, et ça résonne avec le désaccord de la phrase précédente, puisqu'il faut savoir que justement dans les pays qui ont légalisé et où il n'y a pas vraiment le choix de produits variés avec plus ou moins dosés, et c'est pas qu'une question de taux de THC, c'est-à-dire ça suffit cette histoire de taux de THC, il n'y a pas que ça, ce qui compte c'est l'effet d'entourage, on le sait, on en a déjà parlé, donc ça se réduit pas, la puissance du cannabis se réduit pas à un taux de THC, voilà, c'est absolument pas ça, pas comme ça que ça se passe. C'est complètement réducteur de présenter les choses comme ça. Et justement, dans les pays qui n'ont pas beaucoup de choix, comme le Québec par exemple, eh bien les fumeurs ne se tournent pas justement vers les lieux de légalisation encadrée, mais continuent à se fournir au marché noir. Voilà. Donc, faut dire les choses de manière un peu plus exacte, les présenter de manière un peu plus exacte. Donc voilà, ça c'est encore un désaccord. Pourquoi légaliser l'usage du cannabis ? Le trafic de cette substance étant évalué à près de 4 millions d'euros par an dans l'Hexagone, il est facile d'imaginer la manne financière que cela pourrait représenter pour l'État français. Celle-ci pourrait alors être injectée dans une politique de prévention bien plus ambitieuse au même titre que pour la consommation de tabac ou d'alcool. Dans cette dynamique, toute la filière médico-sociale sera mise à contribution, ainsi que l'ensemble des acteurs intervenant auprès de la jeunesse. Le trafic de cette substance étant évalué à près de 4 milliards d'euros par an, je l'ai déjà dit, excusez-moi, c'était juste la petite phrase qui était au milieu dans le journal du dimanche. Je continue, les avantages attendus sont nombreux et doivent nous enjoindre à sauter le pas comme nombre de pays et d'États. Parmi ceux-là, nous pouvons compter des produits en vente d'une qualité contrôlée, la réduction du marché noir, des économies parallèles et de la consommation chez les jeunes. Je précise, ça n'est pas précisé là, mais également la création de toute une filière économique légale donnant la part belle à l'agriculture biologique et au circuit court. C'est tout un savoir-faire agricole français qu'il s'agit de réhabiliter. Nous gardons en mémoire que la Creuse fut un haut lieu de production du chanvre. Nous sommes des acteurs publics et privés qui, en responsabilité, souhaitons faire évoluer le système pour la protection et le bien-être de nos concitoyens, de nos concitoyennes et concitoyens, notamment compte tenu des enjeux tant de santé publique que de tranquillité publique et de vivre ensemble. Nous souhaitons construire un modèle correspondant aux besoins, aux attentes et aux capacités à faire réellement pour nos territoires un modèle local qui fonctionne vraiment. Nous comptons être en mesure d'évaluer l'impact de notre expérimentation tant en matière de santé publique que de lutte contre le trafic de drogue. La ville de Bègles s'engage sur cette question. Nous vous invitons à venir y réfléchir à nos côtés, à construire l'expérimentation locale à l'occasion d'une table ronde le 15 juin prochain à 18h au Centre régional de formation de la Croix-Rouge à Bègles. Voilà, donc cette tribune à l'initiative de Yannick Jadot, de Gaspard Koenig et de Gilles Averrousse, voilà, et que nous avons co-signé malgré ces quelques inexactitudes qui sont un peu fâcheuses, je vous cache pas, parce que nous tout seuls, si on publie une tribune, bien tout le monde s'en fiche et on est obligé un peu de co-signer les tribunes qui sont écrites par des politiques qui s'y connaissent pas forcément super bien sur le sujet, mais qui ont quand même le mérite d'être là, de vouloir faire avancer le schmilblick. Donc voilà, c'est toujours un peu comme ça. Allez, on va s'écouter un petit peu de musique, s'écouter un peu de Cypress Hill. À tout de suite.
The punk thing, and they don't wanna take control. But I free my soul.
Voilà, c'était Everybody Must Get Stoned de Cypress Hill. Je fais un petit pause parce qu'on va mettre le morceau d'après. Voilà, alors on retourne à l'actualité. Maintenant, on va s'intéresser à Gilbert-Luc Devinaz et plusieurs de ses collègues qui ont déposé le 30 mai dernier un projet de loi de légalisation du cannabis. Alors, c'est pas la première fois. L'une des premières à l'avoir fait il y a 9 ans, c'était Esther Benbassa, sénatrice verte, écologiste, qui avait déjà déposé un projet de loi de légalisation et qui s'était forcément soldé par un échec. Je suis pas sûr que Gilbert-Luc Devinaz rencontre un succès différent, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a quand même pas mal de politiques qui s'intéressent à la question et qui sont prêts à déposer un projet de loi. Donc ils sont 43 en tout, donc ça fait quand même un peu plus de monde que les années précédentes. Ça évolue, mais c'est tellement lent. Il y a 20 ans, il y avait peut-être 4 politiques de différents partis qui étaient prêts à déposer un projet de loi. 10 ans après, il y en avait peut-être 10 ou 12. Aujourd'hui, il y en a 43. Bon, à ce rythme-là, peut-être qu'en l'an 2070, vous voyez un peu où je veux en venir, ça prend un temps fou. Il faut pas perdre espoir, plus le temps passe et plus je me dis que si ça se trouve je verrai pas la légalisation de mon vivant, quoi. C'est assez fou quand on pense que celles et ceux qui ont créé le cirque en 1991 s'étaient dit que peut-être d'ici l'an 2000 ce serait réglé, on aurait légalisé le cannabis. Non, 30 ans après on est toujours là. Et on va voir un peu plus tard, je vous lirai le discours de rentrée de Georges Appap, qui était procureur à Valence, à quel point les choses avancent doucement. Donc je vais vous lire cet article qui nous vient du Sénat.fr et est en fait pas une tribune, mais c'est en fait le communiqué de presse, le communiqué de Gilbert-Luc Devinaz et de ses 42 collègues. Mesdames et messieurs, un constat s'est imposé dans le débat public. Nos sociétés sont en déroute face au pullulement des substances psychoactives. La France s'inscrit dans un demi-siècle d'un modèle stratégique dont on conçoit aisément qu'il soit difficile à dépasser, mais dont on sait intellectuellement et empiriquement qu'il se heurte à un échec constant. Dans toutes les sociétés, des voix s'élèvent désormais pour demander une autre approche de la problématique. Médecins, policiers, citoyens, militants associatifs, nombreux sont les acteurs d'une remise en cause de la façon dont nous envisageons le sujet aujourd'hui. Comment encadrer, réduire, apporter des réponses efficientes à un problème qui ne fera que croître à l'avenir, celui des addictions dans la société? Or, la loi de 1970 fait office de ligne Maginot devant le problème endémique des addictions. À cela s'ajoute le refus de moyens effectifs, efficients. 80% des ressources étant consacrées à la répression et 20% à la prévention des comportements à risque. Moi, je dirais même 90-10, c'est pas 80-20, bref. En revanche, le politique a le devoir d'encadrer, fixer des limites, protéger chacun en particulier et la société dans son ensemble des dégâts potentiels d'une consommation hasardeuse des substances psychoactives. Au sein de ces dernières, le cannabis est caractérisé par une place atypique. Près de 18 millions de nos concitoyens en ont consommé, près de 4 millions lors de l'année écoulée. Alors que c'est interdit, plus d'un million en consomment régulièrement, voire quotidiennement. Que nous le voulions ou non, il s'agit d'un sujet de société dont les pouvoirs publics doivent se saisir de manière spécifique. Ainsi, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent traiter législativement la problématique de la consommation récréative de cannabis. Il est de la responsabilité du législateur d'apporter des réponses aux préoccupations légitimes qui existent face à une situation qui nous échappe. Dans ce contexte, nous devons sortir du procès en laxisme fait régulièrement au tenant d'une évolution du cadre légal. Le texte propose une légalisation encadrée du cannabis à l'image de ce que fait le Canada et ce que l'Allemagne souhaite mettre en œuvre. Sans minimiser l'impact sanitaire de la consommation du cannabis, nous considérons, à l'instar des politiques publiques existantes pour le tabac, l'alcool ou encore les jeux d'argent, que la légalisation donnera les moyens d'agir plus efficacement pour protéger davantage nos concitoyens et notamment notre jeunesse. En effet, la légalisation permettrait de contrôler en premier lieu la qualité sanitaire des produits consommés. Elle servirait également à freiner grandement les trafics au bénéfice des zones concernées. De plus, il serait possible de développer des plans de prévention de grande ampleur financés par la taxation des produits et par le redéploiement des moyens de répression. La légalisation doit enfin être un choc social pour libérer les populations qui pâtissent des lieux de deal. Nous devons nous doter des moyens de réinsérer les petites mains du trafic dans l'économie légale. À terme, ce sont ainsi près de 5 milliards d'euros qui pourraient être mobilisés aussi bien pour la prévention que pour la réinsertion et le développement économique. Le premier chapitre vise à encadrer le modèle de légalisation, de la production à la distribution, de l'organisation de la prévention et la réinsertion de certains acteurs illégaux dans la filière légale. Et ça, alors c'est une bonne chose que Devina et ses collègues y aient pensé. Dans cette perspective, les auteurs de la présente proposition de loi propose la mise en place d'une période transitoire pendant laquelle le cannabis serait dépénalisé. Cette période permettra également de structurer un maillage territorial sous la forme de Cannabis Social Club, sous forme d'association à but non lucratif, afin d'asseoir les garanties de consommation encadrées, basées par ailleurs sur les circuits courts. Enfin, les auteurs n'ont pas prévu de gage dans la mesure où le texte permettra de créer de nouvelles recettes pour l'État en taxant. Voilà un peu ce que Gilbert Luc Devina et 42 de ses collègues ont déposé comme projet de loi au Sénat le 30 mai dernier. Projet de loi qui a, je vous l'avoue quand même, je pense, de faibles chances de prospérer, mais on va voir. On imagine bien ce que va en penser monsieur le ministre de l'Intérieur, qui, à mon avis, va ignorer tout ça ou va vilipender une telle initiative. Ça, on l'imagine. On l'imagine bien de sa part, hein, de Monsieur Darmanin. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne toutes et tous, et il s'agit des amendes forfaitaires délictuelles, les AFD, dont la défenseur des droits, la défenseuse des droits, Madame Claire Hédon, souhaite son abolition. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette procédure permet aux forces de l'ordre d'infliger une amende sans l'intervention d'un juge, et il comporte, je cite, le risque de développer des pratiques discriminatoires. Cela porte une atteinte grave au droit au recours et fragilise la relation police-population. C'est une décision qui a été publiée mercredi dernier. 31 mai, je crois. Voilà. Donc, Madame Claire Hédon demande donc au gouvernement de supprimer la procédure de l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle, qui permet aux policiers et aux gendarmes de sanctionner une contravention, certains délits, sans recourir à un juge. Elle affirme que cette procédure, constamment étendue à de nouveaux délits, ça ne concerne donc pas que la répression du trafic de la consommation de cannabis, hein. Ça porte une atteinte grave au droit au recours de la personne poursuivie, restreint l'accès aux services publics de la justice, fragilise la relation police-population, encore comporte le risque de développer des pratiques discriminatoires. Selon la défenseur des droits, la défenseuse des droits, l'AFD est une procédure exceptionnelle puisqu'il s'agit d'infliger une amende en tant que sanction pénale en dehors de toute procédure judiciaire contradictoire. Et elle est possible à condition que la personne, premièrement, soit majeure, deuxièmement, qu'elle reconnaisse les faits et accepte l'amende à leur dresser par le policier ou le gendarme. Il y a quand même 230 000 amendes forfaitaires délictuelles qui ont été émises en 2021. Et en ce qui concerne le cannabis, hein, Yann Bizieu nous disait toutes les amendes dressées au niveau du cannabis, seulement 27% étaient recouvrées, ce qui est extrêmement peu en fait. Alors, si une personne verbalisée veut contester l'infraction en bénéficiant des garanties offertes par les droits de la défense dans une procédure classique, celle-ci, c'est elle qui devra faire la démarche de contester l'AFD. En cas de contestation, le dossier est transmis au ministère public, qui peut décider soit de rejeter la contestation, contraignant le ou la contrevenante à saisir le tribunal correctionnel, soit de renoncer aux poursuites, soit d'engager des poursuites judiciaires devant le tribunal correctionnel. Celle-ci fait donc peser sur la personne poursuivie la charge de déclencher une procédure contradictoire et d'obtenir, en cas de confirmation de culpabilité, une individualisation de sa peine. Voilà ce que pointe la défenseuse des droits. En ce sens, la procédure de l'amende forfaitaire déroge à plusieurs principes, notamment le principe d'individualisation des peines, le droit au respect de la présomption d'innocence, le principe du contradictoire et le droit d'accès au juge. La décision cadre s'inquiète également de l'explosion du nombre de délits pouvant faire l'objet d'une AFD dont le champ d'application est désormais extrêmement large, à la fois quantitativement et s'agissant de la diversité des délits concernés. Alors, ça a été introduit, l'AFD, hein, par une loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice, et initialement pour sanctionner certains délits routiers. Mais au fur et à mesure des années et des textes sécuritaires, de nouveaux délits ont été ajoutés à son champ d'application. L'AFD est ainsi possible depuis 2018 en cas d'installation illicite sur un terrain privé, depuis 2020 pour l'usage de stupéfiants ou l'occupation en réunion des halls d'immeubles, ou encore depuis 2022 pour les vols à l'étalage. Et en fin d'année 2022, on dénombrait ainsi 11 infractions pouvant être sanctionnées d'une AFD d'un montant de 200 à 500 000, à 500 euros, pardon, pas 500 000, non, 500 euros. Alors, l'adoption de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI du 24 janvier dernier, a encore fait exploser ce chiffre en ajoutant une vingtaine de nouveaux délits. Parmi ceux-ci figurent par exemple les tags, l'outrage sexiste, l'intrusion dans un établissement scolaire, les rodéos urbains, l'introduction de boissons alcoolisées dans un stade, le port d'armes blanches, le tapage injurieux ou nocturne, ou encore la chasse sur le terrain d'autrui. Cette démultiplication des amendes forfaitaires délictuelles a logiquement entraîné un nombre croissant de réclamations auprès du défenseur des droits, liées aux difficultés rencontrées par les agents verbalisateurs dans la mise en œuvre de la procédure de l'AFD d'une part, ainsi que des obstacles rencontrés pour les usagers pour faire valoir leurs droits d'autre part. La décision cadre cite en exemple le cas d'une personne sanctionnée d'une AFD pour conduite sans permis, alors que son âge le dispensait de permis pour la conduite d'un véhicule inférieur à 50 cm3. Le réclamant a même de faire état de son âge, de la catégorie du véhicule et donc du caractère injustifié du recours à la procédure de l'AFD, n'a pas pu accéder au juge pour faire valoir ses droits. En effet, faute pour lui d'avoir utilisé le formulaire requis et consigné la somme demandée, les contestations qu'il a formulées ont été rejetées. Voilà, c'est absolument incroyable. Mais... Le défenseur des droits souligne une erreur récurrente, faisant l'objet de nombreuses réclamations des automobilistes sanctionnés d'une AFD pour défaut d'assurance, alors qu'ils avaient juste oublié leur papier, une infraction relevant en réalité de la non-apposition du certificat d'assurance, et sanctionnée par une amende de seulement 235 euros. Voilà, donc c'est quand même assez fou. Qu'est-ce qu'on apprend également ? On apprend également que des jeunes de certains quartiers populaires sont harcelés par la police et ils se prennent des amendes forfaitaires délictuelles qui sont particulièrement difficiles à contester. Je cite, le défenseur des droits a été saisi ou alerté à de nombreuses reprises depuis environ 2 ans d'une problématique qui semble se développer, dite des verbalisations multiples et répétées. Plusieurs procès-verbaux de contravention peuvent être établis à chaque verbalisation et les verbalisations se répètent. Ces AFD sanctionnent principalement des infractions concernant des troubles à la tranquillité publique ou des infractions de la route. Et durant la crise sanitaire, de nouveaux motifs de verbalisation ont fait leur apparition et ont favorisé les verbalisations multiples. Cumuler les amendes à répétition peuvent atteindre des montants de plusieurs milliers d'euros, des sommes hors de proportion avec les revenus, souvent faibles ou modestes de la famille concernée. Les verbalisations répétées concernent presque exclusivement des hommes jeunes, de moins de 25 ans, parfois mineurs, perçus comme étant d'origine étrangère, verbalisés dans un périmètre restreint autour de leur domicile, souvent par les mêmes agents. Donc voilà, cette amende forfaitaire délictuelle, en fait, elle peut finalement servir des motifs carrément racistes. qu'est-ce que je pouvais... Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, je vous laisserai, si cela vous intéresse, vous rendre sur le site, la page Facebook du Cirque Lyon et de lire l'article en entier. Juste pour terminer, Claire Hédon, donc la défenseuse des droits, demande notamment une modification du code pénal afin d'interdire le cumul des AFD en cas de délit éligible en concours, de créer des champs des spécifiques et bloquants dans l'application des PV électroniques pour empêcher les erreurs de qualification, d'ajouter une case permettant d'acter le refus de l'AFD ou la contestation des faits et mettant automatiquement fin à la procédure de l'AFD, de mettre en place un système d'accès aux PV électroniques au bénéfice de la personne verbalisée ou encore de renforcer les moyens humains indispensables à l'effectivité du contrôle. Donc voilà ce qu'elle demande en cas de refus du gouvernement d'accéder à sa demande d'abrogation. Voilà, donc bon, on va voir ça. On va voir de quoi, si ça évolue ou pas, dans le bon sens. Bon, toujours pareil, tant qu'on aura Macron et Darmanin au ministère de l'Intérieur, je suis pas sûr que les choses avancent dans le bon sens, mais bon, on va voir. Je continue un article des éclaireurs de Canal+, qui nous dit « La légalisation du cannabis, un bon plan pour stopper les règlements de compte ?» Point d'exclamation, et qui partent pour se poser cette question de la fusillade à Marseille qui a fait 3 morts le 21 mai. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans cet article ? Ils nous disent que dans la majorité des pays qui pratiquent déjà une dépénalisation de fait... oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Que dans les pays qui avaient qui étaient passés, qui avaient légalisé, on a vu la criminalité baisser et la criminalité en PLS, même nous dit Canal+. Et même dans les pays qui ont dépénalisé comme les Pays-Bas. Hein, depuis 45 ans, les Pays-Bas n'ont pas à proprement parler voté la légalisation du cannabis, mais ils ont réglementé son commerce. La vente est tolérée dans les coffee shops et comme le rappelle le Guardian, la police vérifie que les clients achetant de la weed ont tous plus de 18 ans et qu'ils n'en portent jamais plus de 5 grammes d'un coup. Et leur constat en matière de criminalité, eh bien, si les vols de vélos ont augmenté, il n'y a plus ni carjacking, ni agression, ni fusillade. Double effet qui se coule, les clients évitant le marché noir ne se voient jamais proposer des drogues plus dures, comme c'est mal dit, mais bon. Encore une perte nette pour les trafiquants d'opiacés. Pour aller plus loin, le pays va maintenant lancer une expérimentation de production locale. On nous parle aussi un petit peu de l'Uruguay dans cet article et de Renaud Colson qui affirmait à France Info « On a des études extrêmement précises qui démontrent qu'en quelques années, le trafic de stupéfiants tend à décroître. » Et donc en Uruguay, c'est légal depuis 2013. Ils ont réglementé production, vente et consommation du cannabis dans le but de mettre fin au trafic et à la violence qui l'engendrait. Avec pour effet l'affaiblissement des réseaux criminels liés au trafic de drogue. En 10 ans, l'économie souterraine aurait perdu 20 milliards de dollars chaque année. Même constat aux États-Unis, où les États frontaliers du Mexique ayant légiféré en faveur du cannabis récréatif ou thérapeutique ont vu leur taux de criminalité violente chuter de 13%. Les homicides en particulier ont encore plus baissé. On nous parle aussi du Portugal et c'est une bonne idée. Voilà, plus d'actions de prévention sur le terrain. Les interventions sont plus simples aussi pour les policiers qui ne sont plus confrontés à un tabou chez les consommateurs. Autre gain, à peine 8% des Portugais de 18-34 ans fument du cannabis chaque année au même moment en France. Ils sont 21%. Voilà. Pour finir, ce petit paragraphe stupide où on nous dit qu'un récent rapport de l'ONU, bah oui, mais le récent rapport de l'ONU, c'est le rapport de l'ONU d'essai contre la crime et la drogue, qui n'est pas du tout progressiste, qui nous dit que la légalisation dans le monde a entraîné une augmentation des volumes consommés et du nombre de consommateurs, ce qui n'est pas exact, puisque, par exemple, on sait qu'aux États-Unis, c'est plutôt le nombre de consommateurs de plus de 40 ans qui aurait augmenté et que ça a plutôt fait baisser le nombre de consommateurs mineurs déjà, et de 18 à 30 ans. Voilà, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'augmentation de la consommation du cannabis ou des volumes consommés. C'est juste qu'avec la légalisation, les choses sont un peu plus claires. Donc, les chiffres, les stats sont plus officiels et disent finalement une vérité qui était auparavant beaucoup plus occultée. Voilà, je peux me tromper, mais bon, en tout cas, je ne ferai pas confiance à l'ONU d'essai. Donc, ce récent rapport de l'ONU, à mon avis, je préfère qu'on n'en tienne pas. Il vaut mieux pas trop en tenir compte d'ailleurs. Puisque bon, l'ONU-DC n'est pas très objectif et on le sait depuis longtemps. On va écouter un petit peu de musique, on va faire une petite pause musicale avant de continuer. Allez, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Je vois danser des patrouilles SS, torture dans le bâtiment, puis je reprends mes cesses. Gentiment, densément, il faut que j'achète des gâteaux, maman. Ça en devient marrant et marrant, déclarant la parole du père passant aux parents. T'as pas le clan, tu pars grand, je t'éclate ton crâne, au crabe, façon pirate, ton rap, j'ai pas le temps. J'irai le contractant, la défonce, je la vis. Trop de raisons de lâcher la scène, trop de bêtises gratuites à lâcher la bulle et à gâcher ma vie. Un sale délire, je le regretterais. Me faire traiter de traître et peut-être me faire connaître en termes honnêtes. J'aime tellement me mettre la tête, tous les jours, cher la fête, à se prendre pour Bernadette. Casser le crâne à la claire molette. Le meilleur des schlards, t'es qu'un abonné de la savonnette. Arrêtez sans net, nique tout à l'HP, défonce des sonnettes. Le meilleur des schlards, t'es qu'un abonné de la savonnette. Arrêtez sans net, nique tout à l'HP, défonce des sonnettes.
Fais tourner la weed, l'ami. Je veux la saisir de mes doigts humides de plaisir. Je veux la sentir m'envahir. Oh oui, fais tourner Cécile, l'ami. Je veux la saisir de mes doigts humides. Je veux la sentir,
yeah. Je l'ai dit ce soir, pas d'alcool, mais faisons une exception. Vive des soirées d'étudiants, gradons les consommations. De toute façon, c'est Jean-Bernard qui rince profiter de l'occasion. Je le connais pas, il est sympa. Merci pour cette invitation. Dis-moi, Bernard, ça ne serait pas la cave à vin de ton daron. Je me suis permis de la visiter, tu l'as remarqué. Je suis bien rond, ça sent la weed, ça lâche des galettes sans gêne dans ton salon. Restez salon, fais que suivre la tradition.
Je suis jamais sans ma weed, je vis un tel naufrage. Puis perds toute timidité, dites-moi quel est votre âge. Influence, les mâles se prennent pour des monnages. Mais chaque matin se réveille avec une énorme tâche. Fais couler le liquide, vodka rempli de glaçons. Et je suis connecté au monde en haut débit de boisson. Quand ma troupe dégrade la ville, c'est sans commentaire. Donc fais tourner la weed, c'est mon dernier mot Jean-Pierre.
C'est le grand amour depuis que je connais. J'ai honte de le dire, pourtant c'est vrai. Je le connais depuis le collège. Lui et ses effets secondaires, certains le forment, d'autres le fument. Les crises de cumin sont pires que leur rhume. Je te parle pas des défonces au rhum, moi je me contente d'un joint de seum. Faut que je fume, je me sens pas bien, j'en ai marre de ce quotidien. Je vais encore me réveiller la tête dans le cul comme tous les matins. Je suis raide, défoncé et toujours en train de planer. Ouais, off, je te l'avoue, je suis pas un exemple à donner.
Du morceau, vous avez cru entendre un bout de Macarena, c'était pas la Macarena, c'était Brouhérien, un morceau qu'on a déjà passé. Et je me suis trompé, c'était pas ce morceau là que je voulais mettre, voilà. Bon, peu importe, allez, il nous reste peu de temps, on va se dépêcher, il faut quand même qu'on avance un peu, et j'ai un peu traîné, je reconnais. Quand on est tout seul, ça va des fois plus vite, mais des fois ça va moins vite, et je voilà. Alors, maintenant on va partir un peu en Californie. Où la consommation de cannabis n'entraîne pas de baisse des performances au volant, selon une étude financée par l'État de Californie. Oui, vous avez bien entendu, ça va même, je dirais, un peu à l'encontre de l'étude de SAM, stupéfiant accident mortel de la circulation routière de 2005, qui mettait quand même en évidence un effet dose. Visiblement, l'étude qui a été financée par l'État de Californie et qui a été faite avec des agents de police spécialement formés pour la circonstance, arrive conclusions un peu différentes. Après, bon, l'échantillon n'est pas le même. 191 participants dans cette étude californienne. 10 000 pour l'étude stupéfiant accident mortel de la circulation, l'étude française, et qui, après le tri, etc., avait pris un échantillon d'environ 6500 personnes. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même portée. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on lit dans l'étude. C'est-à-dire qu'en fait, pour en arriver à de tels résultats, les agents de police en fait ont réalisé des tests de sobriété. Ils ont identifié des personnes qui pouvaient, selon eux, être en état d'ébriété cannabique. Et il semblerait quand même que les agents de police aient correctement identifié les participants du groupe de contrôle du cannabis dans 81% des cas. Mais ils ont aussi incorrectement identifié 49% des participants du groupe placebo comme étant intoxiqués, ce qui suggère un manque de fiabilité des tests effectués par la police. Donc il faut qu'ils continuent à se former. Donc voilà, oui, je ne vous ai pas dit, il y avait quand même trois groupes. Il y avait donc un groupe... ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand même important... la cigarette de cannabis, il y en avait plusieurs. Il y avait une cigarette contenant 5,9% de THC, une autre de 13,4% de THC. Donc un groupe avait consommé le cannabis contenant 5,9%. Un autre groupe avait consommé un cannabis à 13,4%. Et enfin, il y avait un groupe placebo qui on avait fait consommer rien, en fait. Voilà. Je reviens où j'en étais. Donc voilà, il faut que les policiers se forment un peu mieux parce que bon, 49% de personnes qui étaient membres du groupe placebo ont été perçues comme étant intoxiquées, ce qui n'était pas vrai. Alors les agents ont effectué plusieurs tests, ils les ont fait marcher, tourner, un test de ce qu'on appelle test de Rumberg, ou se tenir sur une jambe et mettre le doigt sur le nez. Et l'analyse effectuée par les chercheurs sur les prélèvements buccaux, les échantillons de sang et l'haleine des participants après utilisation de la voiture et du simulateur n'a révélé aucun lien entre un niveau de conduite inférieur aux normes et la consommation de cannabis. Voilà. Je cite les chercheurs. Dans le plus grand essai à ce jour impliquant des consommateurs expérimentés fumant du cannabis, il n'y avait aucune corrélation entre le taux de THC dans le sang, le liquide buccal ou la laine et les performances de conduite, l'absence totale de relation entre la concentration du composant centralement actif du cannabis dans le sang, la salive et la laine est une preuve solide contre l'utilisation des lois percées pour le cannabis. Ces résultats sont cohérents avec une méta-analyse récente selon laquelle les concentrations de THC sont des indicateurs relativement médiocres de l'affaiblissement des facultés induites par le cannabis. Bah oui, bien sûr, parce que c'est pas que le taux de THC, c'est ce qu'on sait et qu'on dit depuis des décennies. C'est en fait l'effet d'entourage qui procure la puissance. C'est pas qu'une question de taux de THC. Voilà. Maintenant, on va partir. Alors, c'est un article italien, mais qui nous parle de qui a peur du cannabis médical. Et qui nous parle un peu de David Nutt, qui est le président de Drug Science. Et qui est un neuropsychopharmacologue de renommée internationale qui a fait partie d'un groupe de recherche proche de la couronne britannique il y a une dizaine d'années et qui avait dit que consommer de l'ecstasy était moins dangereux que faire du cheval et que ça n'avait pas du tout plu à l'époque au gouvernement de David Cameron qui l'avait poussé vers la sortie. Alors bon, il avait démissionné quoi. Donc en fait, la question qui se pose, c'est mais qui a peur du cannabis médical? Puisque quand même aujourd'hui, on a quand même pas mal de possibilités et de solutions thérapeutiques avec du cannabis médical, mais il y a vraiment un blocage et il y a des dizaines de milliers de personnes, voire même 15 millions de personnes qui souffrent de douleurs et de problèmes de santé qui pourraient avoir accès à des médicaments légaux à base de cannabis sans avoir recours à des ordonnances privées coûteuses, mais que c'est extrêmement extrêmement compliqué, que ça n'avance pas, voire même ça stagne. David Nutt, président de Drug Science, le groupe de recherche Drug Science, a publié récemment de nouvelles données sur l'efficacité du cannabis médical en présentant les résultats de T21, Trial 21, qui est la plus grande étude d'observation des médicaments à base de cannabis jamais réalisée au Royaume-Uni ces dernières années. Et ces données sont cohérentes avec toutes les études sur le cannabis thérapeutique à base de plantes entières ou à large spectre publiées depuis la prescription du médicament qui a été rendu légal au Royaume-Uni en novembre 2018. Et elles montrent que ces médicaments sont significativement efficaces dans le traitement de conditions telles que la douleur chronique, l'anxiété et le trouble de stress post-traumatique, réduisant la gravité des symptômes des patients, améliorant la qualité de vie, offrant une alternative sûre et efficace aux médicaments largement prescrits, des médicaments tels que les opioïdes qui peuvent avoir des effets secondaires qui changent la vie des patients. David note de se poser des questions et nous ne demandons certainement pas la lunitie. Nous voulons que ces drogues soient légales, soient traitées comme toutes les autres, et nous voulons que les preuves scientifiques soient suivies. Voilà. Donc, tout simplement. Il s'interroge également sur la facilité qu'il y a pour beaucoup de médecins de prescrire des médicaments à base d'opioïdes dont on connaît les effets secondaires. Et là, ça pose de problèmes à personne, quoi. Donc, c'est quand même ennuyeux. Voilà, je vous invite à lire cet article si ça vous intéresse, qui s'appelle « Qui a peur du cannabis médical ?» que vous pourrez retrouver sur le site internet du Cirque ou la page Facebook du Cirque Lyon et du Cirque également, qui est extrêmement intéressant. Et nous allons nous arrêter là, puisque il est déjà 9h et que je n'aurai pas le temps de vous lire le discours de rentrée judiciaire de Georges Appap, procureur de Valence dans les années 80, qui nous a quittés il y a 10 ans. Et qui avait cette célèbre formule « Les drogues ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, mais elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites. » Voilà, je vous laisse méditer sur cette petite phrase. Avant de nous quitter, je vois que le chasseur de son n'est pas tout à fait là encore. Je voulais vous parler d'un livre qui a été publié il y a 7 ans, L'action publique française en matière d'usage du cannabis, les fondements historiques d'un échec, que vous pouvez trouver sur kiern.info. Vous pouvez trouver un résumé de cet article sur le site internet du Cirque et sur la page Facebook du Cirque et du Cirque Lyon. C'est très intéressant, en tout cas, de lire tout l'article de Kiern. J'aurais pas pu vous le lire en entier parce qu'il fait au moins 4 pages. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Ça reprend l'histoire de l'interdiction du cannabis en France depuis le début du XXe siècle, depuis 1916 ou 1912 même. Alors par contre, je m'aperçois que j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que je n'ai même pas le nom de l'auteur. C'est vraiment, vraiment dommage. Voilà. Donc la semaine prochaine, on reviendra, on vous parlera un peu plus de la République tchèque, qui pourrait saisir la Cour européenne de justice pour ses projets de légalisation. Je vais quand même terminer là-dessus, par vous parler de la Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande devrait réinterdire le cannabis ? Ben, pour une raison simple, c'est qu'il y a eu des élections en Thaïlande récemment, le fin mai, et le parti Move Forward, qui a gagné les élections, a annoncé qu'il réinscrira le cannabis en tant que substance contrôlée s'il a la possibilité de former un gouvernement après sa victoire surprise aux élections du mois de mai. Mais en même temps, ce parti n'est pas très clair, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Ils ont dit il y a quelques années qu'ils étaient pour une réglementation, maintenant ils sont pour un nouveau contrôle. Bref, c'est pas encore gagné, mais il y a pas mal de canactivistes aussi en Thaïlande qui s'opposent à ce parti et qui veulent continuer à faire avancer les choses. Donc peut-être que la réinterdiction n'arrivera pas. Voilà, on verra tout ça. Voilà, eh bien Cannabis Circus, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Cannabis Circus. Voilà, maintenant, ces chasseurs de sons qui arrivent ventre à terre. Le voilà, il est bientôt là. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Un petit coup de bande continue avant qu'ils rentrent nous mettre de la musique. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.